Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans les psaumes, psaume 84. Je veux réitérer la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin pour ce culte un petit peu spécial, puisqu'on accueille aussi les frères et sœurs de Condon et Nogaro. Soyez les bienvenus, on se réjouit dans la communion fraternelle et on se réjouit surtout d'être autour de la parole de Dieu. En ce moment, je suis dans les psaumes, je suis souvent dans les psaumes. Mais particulièrement, en ce moment, je suis dans les psaumes et là, on va s'arrêter sur le psaume 84. On souligne souvent que Dieu est ce Père céleste qui aime donner de bonnes choses à ses enfants. Et on retrouve la même idée dans ce psaume, qu'on va lire donc maintenant en entier. Au chef des chantres, sur la guittite des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce psaume. D'ailleurs, le dernier chant a été un petit peu inspiré de ce psaume aussi, qui nous rappelait que mieux vaut un jour dans ses parvis que mille ailleurs. Mais c'est ce verset 12 qui m'interpelle ce matin. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Et ça va même encore plus loin. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Ça vous intéresse ce programme? Il ne refuse rien, aucune bonne chose à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce matin, je voudrais avec vous étudier trois bienfaits que Dieu ne peut pas nous refuser si nous marchons dans l'intégrité. Trois bienfaits qui sont donnés, qui sont soulignés dans ce psaume et qui sont pour nous ce matin, je le crois de tout mon cœur. Mais souvent, on a du mal à comprendre que Dieu promet, Dieu fait grâce, Dieu donne, mais qu'il y a aussi notre responsabilité, il y a aussi des conditions, il y a les promesses de Dieu, mais il y a les conditions, l'obéissance de l'homme. On a du mal avec ces notions-là, parce que soit on est tout dans un côté, soit on est tout dans l'autre, alors que le Seigneur nous demande juste d'être équilibré. Un pasteur utilisait cette image justement pour montrer l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Il disait, c'est comme si vous aviez une poulie qui était dans le plafond et qu'il y avait une corde qui passait dans la poulie et qu'à nos yeux, on ne voyait que deux morceaux de corde qui sortent du plafond. Mais ils sont fixés par la poulie. Si je tire sur l'un et que j'essaie de m'attraper, de m'agripper à un, je vais tomber. Si j'essaie de m'agripper à l'autre, je vais tomber. Le seul moyen que ça me soutienne, c'est d'attraper les deux en même temps. Et c'est une merveilleuse image de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme. On ne peut pas dire, j'attends que Dieu fasse tout, les bras croisés. Allez Seigneur, fais par ta souveraineté. Mais parce que je vais attendre longtemps, hein, parce que le Seigneur me demande. Et je ne peux pas m'épuiser à faire tout ce que je peux dans tous les sens et tomber par terre parce que j'ai plus de force, alors que Dieu veut aussi agir dans sa souveraineté. Je dois prendre les deux par la foi dans ma main. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit. Il ne refuse aucun bien. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il ne refuse rien, mais à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. On voit dans ce psaume trois bénédictions, trois bienfaits qui sont soulignés par les phrases commençant par « heureux ». Vous savez que dans l'hébreu et dans le grec, « heureux », c'est pareil que « béni ». Et on voit à trois reprises, verset 5, « heureux ceux qui habitent ta maison ». Verset 6, « heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Et le dernier verset, le 13, « heureux l'homme qui se confie en toi ». Le Seigneur désire nous donner ses bienfaits. Mais il ne peut le faire que si nous marchons dans l'intégrité. Alors, qui sont ceux que Dieu déclare heureux ? Quels sont les bienfaits que Dieu ne peut pas nous refuser ? On va parler du bienfait de la maison, le bienfait de la marche, le bienfait du meilleur. On commence donc par ce verset 5, « Heureux ceux qui habitent dans ta maison. » Heureux ceux qui habitent ta maison. Le bienfait de la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes reconnaissant de connaître la maison de Dieu ? Amen. Est-ce qu'on réalise combien c'est un bienfait que Dieu ne veut pas nous refuser, parce que tout nous pousse, dans la parole de Dieu, tout nous pousse à rechercher sa maison. On voit dans ce texte clairement, sans connaître l'auteur exact, c'est des fils de Corée, mais c'est assez large, hein, parce que Corée a eu beaucoup de fils, et ses petits-enfants, etc. Mais ce que l'on sait, c'est que le psalmiste qui a écrit ce psaume, il était privé du sanctuaire. Il était privé, mais on ne sait pas pourquoi. Mais on sait juste qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui brûlait pour le temple de Dieu. Et est-ce que c'était l'exil ? Est-ce que c'était la maladie ? Est-ce que c'était la distance, l'éloignement ? Est-ce que c'était l'emprisonnement ? On ne connaît pas la raison. Ce que l'on sait, c'est que dans son cœur, il y avait une souffrance parce qu'il était loin de la maison de Dieu. Et on voit aussi dans son cœur un amour particulier pour le sanctuaire de l'Éternel. C'est ce que nous dit le verset 2, « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. » J'ai trouvé une version qui dit « Que tes demeures sont chéries. » C'est en fait le mot « aimable », ça ne veut pas dire, comment on pense, un petit peu gentil, bien. Non, non, ça veut dire, c'est ce qu'on emploie pour une personne. Cet homme est en train de parler de la maison de Dieu comme d'une personne. Comme quand Dieu dit à ses serviteurs « Vous êtes mes bien-aimés ». C'est le même mot. Quand nous disons à l'Éternel, l'Éternel est mon bien-aimé, vous voyez ? Et c'est ce mot-là, aimable, on aurait pu traduire, ta maison est ma bien-aimée. C'est ce qu'il est en train de dire, ce psalmiste. Mais comment est-ce que cet homme en est arrivé là ? Mais parce qu'il a compris que la maison de Dieu symbolise d'abord et surtout la présence de Dieu, la présence de celui qui habite dans la maison. Celui qui habite dans la maison de Dieu, c'est Dieu. C'est pas difficile, hein ? Et c'est pour ça que son âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Son cœur et sa chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Il y a une recherche de la présence de Dieu. Il y a un amour de la présence de Dieu. Et cet homme a compris que dans le temple, dans le sanctuaire, c'est là où il peut rencontrer son Dieu particulièrement. Bien sûr que nous pouvons le faire sur toute la terre. Mais quand on est rassemblé, quand on est réuni, quand on est dans cette bonne atmosphère spirituelle, quand ensemble des hommes et des femmes s'unissent pour prier le nom du Seigneur, on peut avoir un instant particulier avec le Seigneur. Quand il est dit que mon âme languit, littéralement, c'est mon âme s'épuise. Je suis sans force quand je suis loin de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut dire pareil ? En tout cas, c'est bien qu'on le réalise. Parce que parfois on peut se dire, bon après tout c'est pas si grave, avec les temps que l'on a traversé, l'année qui a précédé, on peut se dire, oh de toute façon la maison de Dieu c'est pas très important, on peut se débrouiller, on a internet maintenant. Mais on voit bien que ce psalmiste là, qui était éloigné, pas à cause de la Covid mais à cause d'autre chose, il n'avait qu'une envie, qu'un désir, c'était de revenir. Et il était même en train de jalouser gentiment l'oiseau ou l'hirondelle qui avait pu faire son nid dans le temple. Parce que ça arrive. D'accord, c'était un bâtiment et il pouvait y avoir un oiseau ou une hirondelle qui a niché son nid parce qu'elle a trouvé là un surabri et cet homme était en train de dire « Mais quelle merveille, eux ils ont pu le faire, moi je suis loin, mais je soupire, j'ai envie, je veux Seigneur, je suis épuisé quand je suis loin de toi, je veux être près de toi. » Seigneur, ta maison est ma bien-aimée. Parce que tu es présent, mais ta maison est ma bien-aimée parce qu'elle est remplie de tes bien-aimés. Savez-vous que vous êtes le bien-aimé, la bien-aimée du Seigneur? Et c'est pour ça que nous pouvons dire, je peux dire personnellement, cette maison, est, alors cette maison, cet endroit, mais à Condon et à Nogaro, ça marche aussi, c'est ma bien-aimée parce qu'il y a les bien-aimés du Seigneur. Parce qu'il y a la joie de se rassembler, il y a la joie d'être ensemble, il y a la joie de se réunir, il y a la joie de trouver là un refuge. C'est bon de savoir que le Seigneur est ce bouclier dont il est question à la fin, ce bouclier qui veut nous protéger dans sa maison, mais il veut aussi nous protéger dans la communion fraternelle. Quand on est ensemble, il y a une protection particulière. Quand il y a les prières des frères et des sœurs, il y a une protection, c'est un refuge que le Seigneur nous donne de goûter avec sa grâce. Un jour, un chrétien qui était en Inde, descendait de la montagne et il s'assit sous le porche d'une maison pour se reposer. Tout d'un coup, le vent se met à souffler très fort. Et il y avait un petit oiseau, il a vu un petit oiseau qui était entraîné dans les tourbillons du vent. Il avait du mal à voler. Et en plus de ça, il y a eu un faucon qui est arrivé pour essayer d'en faire sa proie. Il a voulu l'attraper. Alors le petit oiseau s'est trouvé au milieu du vent et avec le faucon, il s'est dit, il n'y a qu'une solution, il s'est réfugié sur les genoux de l'homme. Et là, il était en sécurité finalement, parce que le faucon n'a pas osé l'attaquer et le vent n'avait plus d'accès. Et cet homme réfléchissait, il savait que les oiseaux, d'habitude, ils avaient peur des hommes. Mais à cause du vent et du faucon, à cause des dangers, il est venu chercher refuge là. Et il s'est dit, c'est exactement pareil pour nous. Quand il y a la tempête, quand il y a l'épreuve, le Seigneur nous offre toujours sa protection. Et le Seigneur permet souvent ces choses-là pour qu'on y aille. Parce que sinon, on essaye de se débrouiller par soi-même, on essaye de voler dans le vent et on s'épuise. Alors que le refuge, il se trouve dans la maison de Dieu. Notre Dieu est un bouclier. Notre Dieu est celui qui a la force pour arrêter le vent. Notre Dieu est celui qui, d'une parole, dit quelque chose et la mer se calme. Il y a le silence. C'est la foi dans notre Dieu qui est ce refuge. Heureux ceux qui habitent ta maison, parce qu'ils peuvent te célébrer encore. Oh, le psalmiste savait que pour le temple, il y en a qui devait habiter, qui devait servir l'Éternel tous les jours, il devait se présenter, avoir une certaine activité. Et il était en train d'envier aussi ces personnes. Mais nous savons que par la foi aujourd'hui, pour celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et nous avons accès à la présence de Dieu, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Nous pouvons goûter aux bienfaits de la maison, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Par la grâce de Dieu. Le bienfait de la maison, le bienfait de la marche. Savez-vous que ce psaume, avez-vous remarqué que ce psaume, en fait, une illustration de la foi comme une marche. Je ne sais pas si vous aimez marcher. Je vais parler des bienfaits de la marche. Mais je ne parle pas de la marche physique. Il y en a des bienfaits de la marche. Je laisse les docteurs, les spécialistes, tout ce que vous voulez, en parler. Mais je parle de la marche par la foi. Il y a des bienfaits de la marche par la foi. Dieu nous couvre de ses bénédictions quand nous marchons en direction de sa maison. Parce que ce dont il est en train de parler, le psalmiste, c'est ceux qui marchent, qui bravent tous les dangers pour aller à un endroit, c'est à la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, aller là où il y a le refuge. Mais pour y aller, il y a une marche. Et on sait que pour aller dans le sanctuaire divin que le Seigneur nous a préparé dans le ciel, ça prend toute une vie. Le voyage, il est long. Ça prend toute la vie. Mais un jour, quand il l'aura décidé, il nous prendra avec lui. Et ça sera merveilleux. Il y a des demeures qu'il est en train de nous préparer, le Seigneur. Et je vous promets que vous serez invités dans la maison qu'il m'a préparée. On verra ça plus tard, pour les détails. J'espère que vous ferez la pareille, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas... Seigneur nous prépare une place dans sa maison et il nous invite à marcher sur ce chemin. Ce chemin, il est particulier. Au verset 6, regardez ce qu'il est dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Littéralement, c'est heureux ceux qui trouvent en toi leur force. Marcher et trouver une force. Comment est-ce que c'est possible d'avoir sa force dans le Seigneur? Est-ce que nous savons comment retrouver des forces dans le Seigneur? C'est facile, c'est précisé. Vous savez, c'est pas difficile la parole de Dieu. Il suffit de lire avec un cœur ouvert le verset 8. Leur force augmente quand ils s'assoient. Non. Quand ils vont dans leur lit. Non. Pendant la marche, tout simplement. Quand ils marchent. La force du Seigneur qu'il veut nous renouveler, c'est quand nous nous mettons en marche. Pourtant, il y a tellement de choses qui veulent nous arrêter, tellement de freins qui sont là, d'obstacles sur le chemin, mais le Seigneur nous dit, peu importe tout ça, si tu marches, je te renouvelle. Littéralement, c'est de force en force, de vigueur en vigueur. Pas après pas, le Seigneur nous donne la force qu'il faut pour avancer. Pourtant, des fois, il y a des pas qui sont compliqués. Hein. Regardez l'apôtre Pierre, quand le Seigneur lui dit, viens, Seigneur, est-ce que je peux venir vers toi alors qu'il est dans la barque? Le pas qui consiste à surmonter la barque pour aller sur l'eau, c'est quelque chose quand même. Des fois, le Seigneur nous demande de faire ces pas-là. Mais il nous communique la force qu'il faut puisqu'il a dit, Jésus a dit à Pierre, viens. Si Jésus avait pas dit viens et que Pierre était allé quand même, il aurait coulé comme une pierre. C'est le cas de le dire. Mais il y a eu la foi qui a soutenu cet homme miraculeusement. Ne me demandez pas des explications, j'en ai pas. Si ce n'est la foi, le pas de la foi. Et le Seigneur nous invite à marcher. Dieu va nous communiquer sa foi, Dieu va nous communiquer ses forces quand nous marchons. Voici les bénédictions qui couvrent le chemin de celui qui marche par la foi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que Dieu nous dirige. Dans nos cœurs, le Seigneur nous parle pour que nous connaissions sa volonté. Est-ce que vous êtes intéressé de connaître la volonté de Dieu? On a parlé de ça encore il y a quelque temps. Que ta volonté soit faite, mais pour que la volonté du Seigneur soit faite, il faut que je la connaisse, que je la discerne. Mais nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés quand nous nous mettons en marche. Parfois, on se dit, je vais attendre que le Seigneur me révèle quelque chose pour lui obéir. Est-ce que c'est bien? Ça dépend comment on le dit. Mais si c'est, comme on disait tout à l'heure, je croise les bras, j'attends que Dieu fasse tout, et ensuite, moi seulement, je vais lui obéir. Non, le Seigneur nous invite à faire déjà les choses que l'on comprend, que l'on connaît, la prière, la lecture de sa parole, les relations avec les frères et sœurs, etc., etc. Toutes ces choses basiques, l'amour du prochain. Seigneur, il n'y a pas besoin de révélation pour que je le fasse. Le Seigneur me demande de le faire, tout simplement. Mais quand je le fais, dans mon cœur, s'il y a quelque chose, un choix important, s'il y a une décision radicale à prendre, dans mon cœur, le Seigneur va me la donner. Il va m'aider à la discerner. Parce que je suis en marche. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Je crois que c'est mon verset préféré de ce psaume. Hein. Je sais pas vous, chacun le sien. Mais en tout cas, je trouve que c'est merveilleux. Parce que sur le chemin, en direction de la maison de Dieu, Dieu est celui qui transforme. La bénédiction de Dieu, c'est de transformer les situations. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Et là, soyons honnêtes, on traverse tous des temps où il y a la vallée des pleurs. On traverse tous des moments où on pleure, où on est triste. Je me souviens d'une dame qui est de notre église, qui est aveugle de naissance. Elle me disait, oh, quand j'entends parler de pleurs, je suis un peu gêné parce que j'ai pas de pleurs. Mes yeux ne peuvent pas pleurer. J'ai une maladie qui fait que mes yeux ne pleurent pas. J'ai dit, mais t'inquiète pas, c'est pas ça dont il est question. Hein. C'est la souffrance et la tristesse. Dieu voit, Dieu connaît nos larmes, Dieu connaît notre tristesse. Et on passe tous par ces temps-là. Mais Dieu ne dit pas, tu vas passer par la vallée des pleurs et tu ne vas faire que te morfondre, désespérer, pleurer. Tu vas rester dans l'angoisse. Non, tu vas passer par la vallée des pleurs. Oui, la marche de la foi, ça passe par la vallée des pleurs, mais tu la transformeras en un lieu plein de sources. Alors là, j'étais content parce que quand j'ai regardé le mot hébreu, c'est fontaine. Vous avez compris, hein? Mais j'aime bien, ça m'a encouragé. Le Seigneur veut mettre des fontaines, alors des fontaines d'eau vive, hein, des fontaines, des sources, là où il y a le désert, là où il y a la sécheresse, là où il y a le pleur, là où il y a les larmes, le Seigneur veut nous donner des bénédictions abondantes qui nous permettent d'avancer, quelles que soient les situations. Je ne sais pas si vous connaissez le Sadhu Sundar Singh. C'est un homme qui a été un apôtre du Seigneur en Inde. Il était un jour dans les montagnes de l'Himalaya. Il était en train de prêcher l'évangile dans un endroit où les missionnaires n'avaient pas du tout le droit d'aller. Mais lui, comme il était hindou, il pouvait se permettre d'aller. Mais quand même, au marché, un gendarme l'a entendu prêcher l'évangile et il l'a conduit devant le Raja, c'est-à-dire le seigneur de l'époque. Et celui-ci, qui voyait un sadhu c'est un maître, un enseignant si vous voulez, religieux, il dit au gendarme de le laisser aller, après tout c'est un sadhu. Mais quand il a compris que c'était un sadhu chrétien, alors il a dit non, finalement envoie-le en prison, t'as bien fait. Et puis il a dit, le Raja, il a dit donc au sadhu, si vous aviez été un sadhu hindouiste, je vous aurais donné un palais juste à côté pour vous loger. Mais le chrétien, il savait une chose, c'est qu'il y a quelque temps en arrière, il y avait un sadhu hindouiste qui était allé dans le palais et qui n'était pas en paix, qui recherchait, à travers sa religion, il recherchait la paix et il n'avait tellement pas pu la trouver qu'il s'était suicidé, il avait sauté dans la rivière. Mais il était logé dans le palais. Alors il a dit au Raja, si j'étais un hindouiste, vous m'offririez un palais. Mais l'hindouisme n'a pu rien faire pour moi, tandis que depuis que je suis chrétien, Christ a tout fait pour moi. Alors il a été jeté en prison, au lieu du palais. Mais pendant qu'il était dans cet endroit inconfortable, il était en train de réfléchir. Et il pensait au sadhu hindouiste dans le palais, il pensait au sadhu chrétien dans la prison. Et il était en train de louer le Seigneur. Et en fait, il se disait, l'hindou, il était dans un palais, mais son cœur était en prison. Et il était sans paix. Moi, je suis dans une prison, mais Jésus-Christ, le Dieu vivant, a transformé ma prison comme le ciel sur la terre. Et bien que mes mains et mes pieds sont liés de chaînes, j'ai une paix tellement merveilleuse que j'ai l'impression d'être dans un palais. Et je trouve que c'est une magnifique illustration de ce que Dieu fait, quand il transforme les situations. On a beau être dans un endroit inconfortable, c'est pas grave, parce que dans le cœur, il y a la paix de Dieu, dans le cœur, il y a la présence de Dieu, dans le cœur, il y a le soleil de Dieu qui brille. L'Éternel est un soleil, il est un bouclier, il est notre refuge, il est notre lumière. Et quand nous avons ça dans notre cœur, ben, peu importe ce qui se passe autour, c'est pas grave. Nous sommes des princes et des princesses dans le palais de notre Dieu. Que son nom soit béni. Il se présente devant Dieu et il prie, Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Nous pouvons nous présenter devant l'Éternel quand nous vivons le refuge de la maison de Dieu, quand nous vivons la marche par la foi, alors l'Éternel va entendre nos prières. On ne veut pas prier du bout des lèvres, mais quelqu'un, vous savez, qui a connu une expérience telle que cet homme, quelqu'un qui a connu une circonstance qui a été transformée, sa prière va être entendue du Seigneur et ça va venir du cœur, parce qu'il sait de quoi il parle. C'est tellement bon quand on prie, quand on sait de quoi on parle, quand on parle d'un verset, quand on parle qu'il la transforme en un lieu plein de sources, mais qu'on a vécu la vallée des pleurs, mais que le Seigneur a changé tout cela. La prière qui en ressort, elle est incomparable par la grâce de Dieu. Le bienfait de la maison, le bienfait de la marche et le bienfait du meilleur. Dieu ne refuse rien à celui qui choisit le meilleur. On va expliquer ce que ça veut dire. Qui dit meilleur, dit choix. D'accord ? On ne peut pas être meilleur quand il n'y a qu'une chose. Il y a un choix. Et il y a un choix qui est le meilleur. Dieu nous laisse toujours le choix, mais il nous invite, il nous exhorte, il nous encourage, il nous presse même à choisir le meilleur. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que vous choisissez ? Jésus, enfin le Seigneur nous dit, choisis la vie, choisis le meilleur, choisis la vie afin que tu vives. Mais devant quel choix sommes-nous confrontés au travers de ce psaume ? Nous sommes confrontés devant le choix de nous confier en Dieu ou de nous confier en l'homme. Heureux l'homme qui se confie en toi, nous dit la conclusion de ce psaume qui est peut-être le résumé. Toi qui es notre bouclier, vois et regarde la face de ton oint. Vous savez comment se confier en Dieu, comment faire le choix de se confier en Dieu, si ce n'est en réalisant que l'Éternel nous voit, dans toutes les situations de nos vies. Il y avait, pendant le temps du bombardement, la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de l'Angleterre par l'aviation allemande. Il y avait un père qui se trouvait dans un des immeubles qui avait été bombardé. Et il s'enfuyait parce que, donc, il venait tout juste d'être détruit par les flammes, mais ils ont pu échapper, heureusement. Et il s'est retrouvé devant la plaine avec des trous d'obus, avec des feux allumés par-ci, par-là. Donc, il cherchait un refuge. Et il a trouvé un trou d'obus, justement, où il a pu sauter. Mais il y avait de la fumée, il y avait les yeux qui piquaient, il y avait tout ça. Et le fils n'a pas suivi tout de suite. Du coup, il appelait son papa. « Papa, papa, tu es où ?» Et son père lui disait, qui était en bas dans le trou, « Mais je suis là, vas-y, saute !»« Mais papa, papa, je te vois pas !» Il lui dit, « C'est pas grave, moi je te vois, saute, fais-moi confiance !» Et alors cet enfant qui était apeuré, il a fait aussi le pas de la foi. Il a sauté, et son père qui était en bas l'a rattrapé, et les bombardements ont continué, mais ils ont été gardés, protégés. La foi chrétienne, c'est ces moments où on est face à ces difficultés, face à ces bombardements, on pourrait dire, mais que le Seigneur nous appelle. Il nous dit, avance, avance. Mais Seigneur, je ne vois pas, Seigneur, il n'y a rien qui change. Seigneur, tout semble pareil. C'est pas grave, c'est moi qui te le dis. Fais-moi confiance. Saute. Et le Seigneur nous rattrape au vol, parce qu'il nous aime. Ce matin, est-ce que nous entendons l'appel du Père Céleste qui est en train de dire, avance, mon enfant. Ce matin, si nous faisons silence dans notre cœur, le Saint-Esprit rappelle les paroles de notre Père dans le ciel. Avance, marche, fais ce que je te demande. N'attends pas quoi que ce soit d'autre que le son de ma voix qui te le dit de le faire. Le Lévite prie dans ce verset, il prie Dieu de se souvenir de son oint. Regarde la face de ton oint. On comprend qu'il parle du roi. On ne sait pas exactement où c'est que le roi se trouve, mais on comprend qu'il y a une difficulté. Est-ce que le roi est en prison à l'étranger, à Babylone, ou que sais-je ? Mais nous comprenons pour nous surtout que celui qui est loin de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et que quand Dieu regarde à son oint, quand Dieu regarde au Messie, quand Dieu regarde au Christ, il voit un Christ crucifié, il voit un Christ ressuscité. Il voit que ce que nous n'avons jamais pu faire et que nous ne pourrons jamais faire, Jésus l'a fait pour nous. C'est pour ça que nous pouvons nous confier en Dieu. Il nous voit au travers de Jésus. Il nous voit au travers de celui qui a l'onction. Et son onction peut être déversée sur nous ce matin par sa grâce. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas quel est votre besoin. Je ne sais pas s'il y a des chaînes qui sont là spirituelles. Je ne sais pas s'il y a des circonstances qui sont compliquées, s'il y a des pleurs. Ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit et qui nous dit « Avance, marche ». Nous sommes devant le choix de faire confiance, mais aussi devant le choix de renoncer. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Nous avons le choix entre les moyens terrestres et les moyens humains. Nous avons le choix entre les tentes confortable, bien doré, avec des jolies teintures, des beaux coussins bien rembourrés où on a envie de faire la sieste, de la méchanceté et le seuil de la maison de l'Éternel. Si je vous disais ce matin, il n'y a pas de place dans l'église, il faut que vous vous asseyez sur les escaliers là-bas, à l'entrée. Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que vous diriez, peu importe, si je peux quand même participer, je préfère me tenir sur le seuil plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Vous comprenez, il y a un renoncement. Peut-être que je vais pas vous le demander, hein, parce qu'il y a la place largement, mais vous comprenez l'image qui est là. Se tenir sur le seuil, c'est pas quelque chose de plaisant. C'est être au bord, c'est d'être pas dedans complètement, mais juste au bord. Mais pouvoir attraper une miette de la présence de Dieu, c'est le principal. Parce que ça vaut toutes les heures que l'on peut passer à l'extérieur. Ça me fait penser à Moïse qui a préféré, au lieu des trésors de l'Égypte, il a préféré l'opprobre, la honte de Christ. Lui qui était éduqué comme un prince, il est devenu juste un berger. Alors Dieu a fait de grandes choses avec un berger, hein, mais parce qu'il a choisi. Il a préféré la maison de Dieu plutôt que les tentes de la méchanceté, avec ses palais. Ça me fait penser à la folie de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que la folie de Dieu, elle est plus sage que toute la sagesse des hommes. Le seuil de la maison, c'est ces choses-là qui semblent méprisables, mais qui sont données par le Seigneur et qui nous permettent d'être bénis et d'être changés, et d'être transformés et d'être consolés et d'être renouvelés dans nos forces, dans la présence de notre Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une heure de prière, pour être pratique, avec les frères et les sœurs, par rapport à 1000 heures à faire tout le reste? C'est rien, mais c'est ça être le seuil de la maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est une prière de repentance et d'humiliation devant Dieu par rapport à 1000 paroles d'orgueil en disant « je peux me débrouiller tout seul ». Une parole de repentance, une prière de repentance peut changer notre vie. Pensez aux publicains et aux pharisiens. Le pharisien faisait une grande déclaration, pleine de paroles, 1000 paroles, en disant « oh Seigneur, je ne suis pas comme les autres, moi je suis bien, moi je suis quelqu'un ». Le publicain, une prière de repentance. Mais Dieu l'a béni. Frères et sœurs, c'est ce genre de prière que nous devons faire. Qu'est-ce que c'est un appel à l'aide à mon frère pour lui exposer mon problème, pour qu'il me soutienne dans la prière, par rapport à 1000 paroles de critique pour critiquer les problèmes des autres, justement? C'est tellement mieux de faire une parole en disant « j'ai besoin que tu pries avec moi, j'ai besoin que tu m'aides, que tu me conseilles ». Une miette de la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est comparé à 1000 choses empoisonnées de ce monde dont il veut nous nourrir? Le choix devant lequel nous sommes, chaque jour, c'est de renoncer à ce qui est l'abondance du monde, mais qui finalement amène de la méchanceté, amène de la noirceur sur nos âmes par rapport à la présence de Dieu. Pas besoin de quantité extraordinaire, mais la présence de Dieu, en petite quantité, tous les jours, régulière, amène la bénédiction. Le Seigneur veut nous couvrir de sa bénédiction. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir renoncer aux choses de ce monde pour suivre le Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir se confier en l'Éternel? Parce qu'il y a ce verset 12 qui est là comme une parfaite conclusion. L'Éternel, car l'Éternel, donc c'est bien que c'est l'explication, l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Et je crois qu'on le comprend mieux maintenant, ce que ça veut dire. C'est pas « Seigneur, oh, j'ai besoin d'une Ferrari. Seigneur, c'est un bien pour moi, donc donne-la-moi. » Non. Si on a compris, la Ferrari, ça fait partie peut-être des tentes de la méchanceté. Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux que par mon témoignage, des hommes, des femmes te connaissent. Je veux pouvoir distribuer une Bible. Seigneur, je veux être utile dans ton œuvre, de la manière que tu le choisiras. Seigneur, mais donne-moi d'être au seuil de ta maison, mais touché par ta présence. Et je sais que ma vie, elle va être changée, transformée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Dieu ne pourra pas refuser ce genre de bienfait-là? On est d'accord? Ce n'est pas possible parce que sa parole nous dit tout le contraire. Voilà pourquoi ce matin, avec foi, on va prier en demandant, Seigneur, que tes bienfaits se répandent sur nous. Que ta pluie couvre ce lieu, nos vies, nos cœurs, de ta bénédiction, parce qu'on en a besoin. On ne veut pas vivre une vie chrétienne, on va dire classique, mais dans un sens pauvre. Non, non, on croit qu'on a un Dieu qui veut bénir. Et si nous marchons par la foi, il est là, au rendez-vous. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom, ta présence. Merci pour ton esprit qui est là ce matin. Merci parce que nous, Seigneur, nous réalisons que tu veux que nous soyons heureux. Tu nous le répètes à 3 reprises. Heureux ceux qui se confient en toi. Heureux ceux qui sont dans ta maison. Heureux ceux qui trouvent en toi leur appui, leur force. Seigneur, notre force, elle n'est pas dans nos qualités, dans notre force physique. Notre force, elle est dans ta présence. Notre force, elle est dans la communion avec les frères et les sœurs. Seigneur, nous le réalisons, nous le déclarons encore ce matin et nous le déclarons à la face de l'ennemi qui veut nous dire tout le contraire. Seigneur, combien ta maison est aimable. Elle est bien aimée de nos cœurs. Combien tes différentes maisons dans ce département sont bien aimées. Nous prions, Seigneur, pour que la bénédiction couvre le chemin de tes enfants, à Condon, à Nogaro, à Hoche, et partout où il y a de tes enfants, dans les villages où il y a leur maison, Seigneur, nous prions pour que la bénédiction, Seigneur, puisse recouvrir tous ces endroits, partout où il y a des hommes et des femmes qui invoquent ton nom, parce que nous savons, Seigneur, que c'est là notre part. Pour nous, nous approcher de toi, c'est notre bien. Ce matin encore, nous voulons venir avec un cœur simple, assoiffé de ta présence, soupirant après toi, afin que tu interviennes dans les besoins des uns et des autres. Tu sais, Seigneur, celui qui pleure. Tu connais, Seigneur, celui qui traverse des situations qui l'épuisent. Tu connais, Seigneur, celui qui est dans un temps de sécheresse spirituelle, celui qui est tenu par des choses que l'ennemi a semées dans sa vie. Tu connais tout cela, mais tu es celui qui a dans ta main la bénédiction. Seigneur, ce matin, viens bénir les cœurs qui sont ouverts devant toi. Viens répandre tes grâces, viens accorder tes bienfaits, toi qui ne refuses aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, de tout notre cœur. Amen.